Blog Talk Radio.
Now, precious people.
Maintenant, précieux peuple. C'est un message spécial du Seigneur. Maintenant, vous avez entendu toute révélation que Dieu a donnée, la conversation indirecte que le Seigneur a eue avec l'Église à propos de la venue du Messie. C'est là que j'aimerais commencer. Vous pouvez l'écrire ou faire ce que vous désirez. Vous pouvez même l'enregistrer par vous-même, ça n'a pas d'importance. Nous nous souvenons de la première conversation. Ou par exemple, le 1er novembre 2006, à 3 heures du matin, quand le Seigneur a parlé avec moi à propos des noces de l'agneau de Dieu, dans cette vision de Dieu à 3 heures du matin, la vision qui fait un point tournant pour l'Église. Et dans cette vision du Seigneur, il a présenté deux anneaux de noces dans le ciel. Il a ouvert les cieux et il a montré deux anneaux de noces en or dans le ciel. Et ensuite, la voix a parlé, déclarant que dès ce jour, toute autorité dans le ciel et autorité sur la terre
a été donnée à Jésus-Christ.
Et après cela, la voix a encore parlé et a dit, regarde et vois qui est assis sur le cheval blanc. Et quand j'ai regardé au-dessus des deux anneaux de noces, au seuil des cieux, et j'étais en mesure de voir le puissant et glorieux cheval blanc. Très, très puissant et robuste. Et j'ai dit que lorsque je regardais ce cheval, juste en train de le regarder, j'ai reçu ce message. Parce qu'il avait une tenue comme s'il était prêt à partir. À chaque minute, il peut quitter. Et quand j'ai regardé au cheval, j'ai regardé qui était assis sur le cheval. Alors j'ai vu la gloire du Seigneur. Et finalement, la voix du Seigneur a dit, va et dis à ces gens de se préparer pour la venue du Seigneur. Écoutez ceci. Et j'ai commencé à donner la révélation de ce qu'était le message que Dieu dit à l'Église quand il présente deux anneaux de noces dans le ciel. Et ce message a le pouvoir d'amener le réveil à l'Église. Et j'ai dit que pour longtemps, il y a eu de la confusion dans l'Église. Beaucoup de confusion dans l'Église. Pour longtemps. Parce que tellement de personnes errantes, tellement de personnes errantes
So many strangers.
Tellement d'étrangers.
They have raided the church.
Ils ont envahi l'église.
And they are doing their things in the church.
Et ils font leurs choses dans l'église.
The false prophets are raided.
Des faux prophètes sont amenés.
The false apostles are raided.
Des faux apôtres sont amenés là.
The witch doctors have come.
Les sorciers viennent.
Everybody, the business people are here.
Tout le monde, les gens des affaires sont là.
They are doing business here.
Et ils font des affaires là.
For a long time.
Pour longtemps.
There has been disorder.
Il y a eu du désordre.
In the church.
Dans l'église.
Why?
Pourquoi?
Listen very carefully.
Écoutez attentivement.
He said,
il a dit.
For you to understand.
Pour que vous compreniez
the revelation that God is giving to the church.
La révélation que Dieu donne à l'église
through the message of the wedding ring.
À travers le message des anneaux de noces.
You need to reach a common baseline.
Vous avez besoin d'arriver à une ligne de base commune.
All of you
tous
need to reach a common standard.
Ont besoin d'arriver à un standard commun.
A yardstick.
Un critère.
A common benchmark.
Un repère commun.
What is that standard?
Quel est ce standard?
As a church.
En tant qu'église.
To understand the revelation here.
Pour comprendre la révélation ici.
Those who are writing is okay, you can also write.
Ceux qui écrivent, c'est d'accord, vous pouvez aussi écrire.
Those recording catches.
Ceux qui enregistrent, saisissez-le.
Listen to this.
Écoutez ceci.
This is the standard.
C'est le standard.
Number one.
Numéro 1.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
I repeat,
je répète.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he does not speak.
Il ne parle pas.
I want to repeat it properly so you can write it well.
Je vais le répéter correctement. Comme ça, vous pouvez bien le saisir.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he does not speak.
Il ne parle pas.
Unless,
sauf
he speaks to the church of Christ.
S'il parle à l'église de Christ.
Which means,
ce qui signifie
every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he is speaking to the church.
Il parle à l'église.
Number two, every time Jehovah speaks,
numéro 2, chaque fois que Jéhovah parle,
he will always rebuke sin.
Il va toujours réprimander le péché.
I repeat number two.
Je répète le numéro 2.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he will not speak.
Il ne parlera pas
unless he rebukes the sin of man.
Sauf s'il réprimande le péché des hommes.
Number three.
Numéro 3.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he must centralize the holiness of God in the church.
Il doit centraliser la sainteté de Dieu dans l'église.
He must centralize the holiness of Jehovah in the church.
Il doit centraliser la sainteté de Jéhovah dans l'église.
Number four.
Numéro 4.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he will always point at the coming Messiah.
Il va toujours pointer sur la venue du Messie.
He must always talk about the coming Messiah.
Il doit toujours parler à propos de la venue du Messie.
Number five.
Numéro 5.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he will not build the kingdom of men.
Il ne va pas construire le royaume des hommes.
6. Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
he will always talk about,
il va toujours parler
the building of the kingdom of God,
de l'édification du royaume de Dieu. Le numéro 7 est le plus important.
Every time Jehovah speaks,
chaque fois que Jéhovah parle,
you must always find it in the Bible.
Vous devez toujours le trouver dans la Bible.
In fact,
en fait,
if somebody comes here,
si quelqu'un vient là
and says, Jehovah spoke to me,
et dit Jéhovah m'a parlé,
and you don't find it there,
et vous ne le trouvez pas dans la Bible,
then the Lord has not spoken.
C'est que le Seigneur n'a pas parlé. La Bible, c'est le miroir. La Bible, c'est le standard. Alors vous commencez à comprendre pourquoi il y a eu de la confusion dans l'Église. Ça signifie que la parole, en tant que fondation de l'Église, a été enlevée. Alors maintenant, toute chose va, toute chose vient. Mais aujourd'hui, vous êtes éclairé. Parce que, béni soyez-vous, vous qui avez entendu cela. À qui on a dit cela? Quel est le message que le Seigneur a donné dans les anneaux de noces? Je ne vais pas en parler parce que j'ai un autre message. Je suis juste en train de construire le message. Je n'irai pas profondément là-dessus. Vous l'avez entendu dans une croisade. Les conférences de pasteurs, sur les DVD, des journaux dans la rue. Je veux juste passer là-dessus parce qu'il y a un message. Écoutez, précieux peuple. Apocalypse chapitre 19. Les versets 6 à 9. Vous voyez très très clairement quand le Seigneur parle à propos des noces de l'agneau. Je veux résumer toute chose. Apocalypse chapitre 19, les versets 6 à 9. J'aimerais que vous payiez attention aux éléments suivants. Et il dit au verset 6, mais j'ai entendu un bruit comme une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux. Si j'étais vous, et que je lise ceci, je trouverais multitude et je le soulignerais. Et je verrais grosses eaux et je le soulignerais. Encore. Une grande multitude et le bruit de grosses eaux. Et comme de forts coups de tonnerre. Multitude. Le bruit de grosses eaux. Comme un bruit de forts coups de tonnerre. Et qu'est-ce qu'ils criaient? Écoutez ce qu'ils criaient.
Alléluia.
Alléluia. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous. Je voudrais souligner, réjouissons-nous. Et soyons heureux. Je soulignerai heureux. Et donnons-lui gloire. Je voudrais souligner gloire à lui. Pourquoi est-ce qu'ils font ces trois choses? Réjouissez-vous. Soyez heureux. Et donnez-lui gloire. Parce que les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Du fin lin, éclatante et pure, lui a été donnée pour se vêtir. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et ensuite, il finit par dire, et l'ange a dit, bénis soient ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Et il a dit, écris, Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Arrêtons-nous là.
What is the message in that conversation?
Quel est le message dans cette conversation?
When the Lord,
quand le Seigneur
finalement
a décidé de parler directement aux hommes. Une conversation directe. Ça n'est pas caché.
Direct.
Deux anneaux de noces. Regardez, ils sont prêts. Écoutez, précieux peuple. Voyez, quand le jour des noces de l'agneau vient, c'est comme si une énorme explosion de félicitations, de célébrations, de jubilations consume les cieux et la terre. Une grande célébration prend en charge tout ce qui est créé et la création. Une grande célébration. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, numéro un, que dans le calendrier de Dieu, dans les cieux, le jour des noces de l'agneau, c'est le jour le plus important. Ça signifie que dans le cœur de Dieu, le jour des noces de l'agneau est le jour le plus important. Quel est le message là? Ça signifie que même vous, l'Église, si vous appartenez au Dieu Tout-Puissant, ce jour doit être le plus important jour de votre vie. Et s'il est le plus important, alors vous avez à vous préparer pour cela. Si c'est le plus important, alors sûrement vous avez à vous préparer. Si c'est si important, écoutez les autres choses. Ils disent
Alléluia!
Alléluia! Ce qui signifie loué soit notre Dieu. Parce que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Il dit
Alléluia!
Alléluia! Car notre Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. C'est comme si, pendant tous ces jours, pourquoi n'avez-vous pas dit comme ceci? Mais maintenant, quand les noces de l'agneau viennent, ils disent, ah, oh, notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant règne. Ce qui signifie, quand ils voient que le mariage est maintenant arrivé, les noces de l'agneau, ils disent, ah, maintenant je sais que le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Pourquoi? Pourquoi ils disent cela? Écoutez ceci. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand il a commencé à marcher, il est tombé dans le péché. L'homme est tombé dans le péché. Et la mort. Et la mort est entrée dans la vie de l'homme. Et Dieu. Parce que Dieu ne veut pas avoir honte. Parce que Dieu ne perd jamais. Parce que Dieu n'échoue jamais. Il avait vu cela plus tôt. Que l'homme va tomber. Alors il a développé un plan B. Il avait le plan A. Et ensuite, parce qu'il savait que l'homme allait tomber,
il a développé le plan B.
Alors écoutez ceci.
Dans le plan B,
Jésus-Christ de Nazareth,
le Fils du Dieu vivant,
est venu et a racheté l'homme à la croix.
Et quand il a racheté l'homme de la croix,
il a été abusé énormément.
Mais de toute manière, il est allé à la croix
pour le rachat de l'Église.
Il a accepté de tout souffrir.
Mais quand il a eu fini,
il a ressuscité
et il est allé s'asseoir à la droite du Père.
Glorifié.
Et il a dit,
tout est accompli.
Tout est accompli.
Tout est accompli.
Écoutez,
quand il est allé au ciel,
et ensuite Dieu avait la première église,
l'église du premier siècle,
puissant serviteur,
précieux serviteur.
Je me souviens du jour de la Pentecôte,
Pierre est sorti
et ils agissaient comme des gens qui avaient bu.
Ils riaient et parlaient dans le Saint-Esprit
sans microphone,
sans haut-parleur.
Pierre a parlé
et 3000 ont été ajoutés à l'église
sans équipement,
sans électricité.
Je me souviens de l'église puissante.
Et ensuite,
je me souviens aussi de Paul
qui leur a été plus tard ajouté.
Et Paul parlait de Jésus de Nazareth,
qui a été crucifié
et qui est ressuscité.
Je me souviens de deux d'entre eux.
Quand Jésus a été crucifié,
et ils avaient beaucoup de peur.
Des gens intelligents devraient être là.
Des gens intelligents devraient être là.
Alors, parlons plus fort.
Ils l'ont juste tué.
Ils avaient peur. Les gens intelligents peuvent aller chercher qui sont les autres.
Ils étaient en train de marcher sur Emmaüs.
Ils marchaient.
Ils disaient, « Hey,
Jésus de Nazareth. »
Ils l'ont tué d'une manière très mauvaise.
Nous pensions qu'il allait être le roi d'Israël.
Nous pensions qu'il venait pour restaurer le royaume d'Israël.
Et ensuite Jésus
les suivait,
les entendait.
Il leur a demandé,
excusez-moi, homme de Galilée,
à propos de qui est-ce que vous êtes en train de parler?
Écoutez, quoi?
De Jésus de Nazareth.
Est-ce que vous êtes un visiteur ici?
Est-ce que vous n'avez pas entendu?
De quelle manière il a été tué?
Et nous avions pensé qu'il allait restaurer le royaume d'Israël.
Il était le plus grand ici.
Et il nous aidait.
Et ils l'ont tué.
Jusqu'à ce qu'il entre dans la maison, qu'ils le convainquent d'entrer avec lui.
Ils ont dit, viens à l'intérieur, c'est trop tard.
Au repas,
quand il a pris le pain et qu'il l'a rompu,
et qu'il a
rendu grâce, premièrement. Alors ils se sont souvenus. Ils ont réalisé, c'est le Messie. Et ensuite il a disparu. Mais écoutez ceci. Il parlait de Jésus de Nazareth. Même à l'heure la plus épouvantable, quand personne ne désirait parler à propos de Jésus. Souvenez-vous de Paul. Même au point d'être tué. Il venait de Thessalonique. Il est venu jusqu'à Césarée de Philippe. Quand il est allé à Césarée de Philippe, il était dans un rassemblement comme celui-là. Et il y avait un prophète qui était assis là. Et quand le prophète l'a vu marcher à la porte, le prophète s'est souvenu de son rêve. Et il a dit à Paul, viens, viens. Et il a pris une ceinture, a lié ses mains, l'a lié et lui a demandé, Jérusalem, est-ce que tu veux encore y aller? Et Paul a ri. Paul a ri. Il a dit, laissez-moi vous dire, quand j'ai quitté Thessalonique, j'ai aussi vu cette vision. Je savais que quand j'irai à Jérusalem, au nom du Seigneur Jésus, ils vont m'arrêter. Et Paul a dit, Jérusalem, j'y vais encore. Je préfère être arrêté. Je préfère être tué. Mais à Jérusalem, j'y vais. Pour parler de Jésus de Nazareth. La première église était très forte. Il prêchait Jésus de Nazareth. Il donnait un témoignage de Jésus de Nazareth. Quand ils sont sortis et qu'ils ont rencontré des infirmes, ils ont dit, de l'argent et de l'or et des diamants, je n'en ai pas. Mais Jésus de Nazareth que j'ai, je te le donne. Marche. Et il marche. Il marche plus loin. Les infirmes. La première église était glorieuse. Quand ils sont morts, ils mouraient Jésus de Nazareth. Mais en plus, la course. Vous vous préparez pour la course. Et ensuite, ils ont donné le bâton à cette église. L'église des temps modernes. Mais quand Dieu, le Père, a regardé, il a vu que l'église est retournée au péché. Et l'église a commencé à se conduire comme si elle avait besoin d'une seconde délivrance. Comme si elle avait besoin d'un deuxième calvaire. Comme si le premier calvaire n'était pas assez pour la délivrer. C'est pourquoi ils viennent du monde. Ils viennent à l'église pour recevoir Jésus. Et ils restent dans la même identité que le monde. Ils demeurent dans l'identité du monde. Et vous devenez très choqués. Et vous vous demandez à vous-même, est-ce que le sang de Jésus est sans pouvoir? Écoutez ceci. C'est pourquoi la honte est entrée.
Under the name of Jesus.
Dans le nom de Jésus.
And when shame came,
et quand la honte est venue,
when you look at the church,
quand vous regardez l'église,
it is as though
c'est comme si
God's power is not there.
Le pouvoir de Dieu n'est pas là.
The sick are in the church.
Les malades sont dans l'église.
They come sick and go back sick.
Ils viennent malades et retournent malades.
They come depressed.
Ils viennent déprimés et retournent déprimés. Et c'est comme si le pouvoir de Dieu n'est pas dans l'église. Le rôle de Dieu. Et c'est pourquoi quand le jour des noces de l'agneau arrive et qu'ils voient l'épouse de Christ qui a finalement triomphé et vaincu le péché, ils disent, depuis maintenant, je sais que notre Dieu Tout-Puissant règne. Avant, je pensais qu'il ne le faisait pas. Mais maintenant, l'Église peut venir au ciel. Certainement, Dieu règne. Le jour de l'enlèvement. Le jour des noces de l'agneau. Établit essentiellement le règne du Dieu Tout-Puissant. Non seulement pour l'Église, mais aussi sur la terre. Parce que la terre va être choquée quand ils verront les chrétiens saints ressuscités. Parce que même les musulmans diront, ah, ça c'était la vraie religion. Ils sont ressuscités, ils sont partis. En ce jour, le règne du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera établi. Alors là en bas, pourquoi est-ce qu'il célèbre? Il dit, parce que l'épouse de Christ est prête. Et du fin lin, brillante et pure, lui a été donné pour se vêtir. Ça signifie que quand vous vêtez le fin lin, éclatante et pure, alors Dieu va célébrer.
That is the holiness of the church.
Ça, c'est la sainteté de l'Église.
And that's why every nation I go to,
et c'est pourquoi toutes les nations à travers lesquelles je vais,
I am so surprised,
je suis tellement surpris
that the pastors,
que les pasteurs
they have not understood this,
n'ont pas compris ceci.
That the reason you are called,
que la raison pour laquelle vous êtes appelé en tant que pasteur, ça n'est pas pour rassembler de l'argent. Ça n'est pas pour des femmes. Des femmes de ceux qui conduisent l'adoration. Où je suis. Beaucoup de gens viennent à moi pour des prières, pour des conseils et toutes choses. Certaines choses que vous entendez vous étonnent. Mais tout ce que je vous dis, que dans Éphésiens chapitre
4,
le Seigneur parle à propos de l'appel. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16, il dit, la raison pour laquelle il appelle les groupes des saints ministères était pour préparer l'Église pour qu'elle puisse croître et grandir à la pleine stature de Christ. Ce qui signifie pour préparer l'Église pour l'enlèvement de l'Église. Pour préparer l'Église pour les noces de l'agneau. C'est la seule raison pour laquelle il appelle les pasteurs. Il n'y a pas d'autre raison, précieux peuple. J'ai l'habitude de dire aux pasteurs dans ce ministère, je leur dis, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais que vous prêchez l'argent et toutes choses. Mais croyez ceci. Si vous acceptez d'arrêter de prêcher l'argent et que vous commencez à prêcher le sang de Jésus, la croix du calvaire, le salut de Jésus, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la repentance, le royaume de Dieu, la venue du Messie. Et ensuite, j'irai parler au Seigneur et je lui demanderai de vous bénir avec les choses avec lesquelles vous pouvez vivre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, toutes les autres choses vont être le bonus. Ça va vous être ajouté. Maintenant, ils viennent à moi ces jours. Ils disent, homme de Dieu, vous aviez raison. Quand je prêchais de l'argent, nous n'avions pas d'argent pour le loyer de ma maison. Quand j'essayais de leur dire, semez une graine et vous serez bénis, nous n'avions pas assez de nourriture dans ma maison. Quand je prêchais l'argent, nous n'avions pas d'argent pour le loyer et pour les frais de scolarité. Mais écoutez-moi, comme je continue à prêcher la sainteté, quelqu'un est juste apparu et a dit, parce que tu nous as enseigné et que tu nous as éduqués sur la parole de Dieu, nous désirons éduquer tes enfants. Écoutez-moi. La raison pour laquelle l'Église était froide, si vous vous préparez pour l'enlèvement, seule la sainteté peut préparer l'Église. Seule la sainteté peut rendre l'Église prête. Seule la sainteté peut faire croître l'Église pour arriver à la stature de Christ. Alors, du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. Et quand elle le revêt, il y a une célébration. Écoutez ceci. Dans Hébreux chapitre 12, 14, vous le savez, il dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour vivre en paix avec tous les hommes, pour être saints. Et il finit par dire, parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ensuite, j'ai compris ce qu'il a dit dans Apocalypse. Parce que seulement si elle revêt le fin lin, éclatant et pur, le Dieu Tout-Puissant y prend plaisir. Prend plaisir dans l'Église. Que les cieux célèbrent. L'Église est enlevée. Seulement si elle se revêt de sainteté, je désire que vous, les gens, vous compreniez ceci. Le plus grand appel, c'est quand vous pouvez marcher dans la sainteté. Ça, c'est le plus grand et le seul appel. Toutes les autres choses, mettez-les de côté. Il sait que vous avez besoin de ces choses. Mais je dis au pasteur, s'il y a quelque prospérité qui doit venir sur l'Église, qui va éloigner l'Église du Seigneur, cette prospérité ne vient pas de Dieu. S'il y a quelque prospérité qui va amener les pasteurs, j'ai trouvé qu'il y a une femme dans la maison des domestiques qui vit dans les péchés sexuels. Et je l'ai appelée avec l'homme, le partenaire sexuel. Et ils se sont assis et je lui dis, ma fille, je vois que tu es encore jeune. Tu es ma fille. Et je veux encore déclarer que le diable est un menteur. Tu es une fille du Seigneur. Êtes-vous chrétien? Elle a dit, oui, nous sommes chrétiens. Nous allons à la grande église là. Une grande église moderne. Et je lui ai dit, ça n'est pas possible que tu continues à rester ici et que tu amènes des hommes dans le péché sexuel. Même ton habillement. D'aucune manière. Je désire que mes filles s'approchent même plus près de toi. Seulement à cause de la manière que tu as de t'habiller. Elle a dit que c'est vrai. Elle a dit que c'est vrai. Je porte des mini-jupes très courtes. Même quand je vais travailler. J'ai dit, mais tu es chrétienne. Non, mais notre pasteur ne parle pas à propos de ces choses. Il ne parle pas à propos de l'habillement. Si il y a quelque prospérité que vous prêchez, pour laquelle vous priez, que tu donnes à l'église, que tu donnes à ta famille, s'il y a quelque prospérité qui éloigne l'église de la sainteté de Dieu, cette prospérité vient du diable. Ça n'est pas du Seigneur. La prospérité de Dieu est faite pour amener l'Église de plus en plus proche du Seigneur. Vous ne pouvez pas dire, dans mon église je prêche la prospérité, alors je ne peux pas réprimander le péché sexuel. Le plus grand appel en tant que chrétien, c'est la sainteté. La plus grande adoration, c'est la sainteté. Écoutez, précieux peuple. Alors, seule l'Église qui se nourrit de sainteté, seule l'Église qui se nourrit de sainteté peut croître. Parce que le seul régime qui peut aider l'Église à arriver à la stature, à la pleine hauteur de Jésus, c'est la sainteté. C'est pourquoi regarde-toi comme béni. Alors regardez-vous comme béni si vous croissez en sainteté. Parce que cette parole est très très rare là-bas, dans d'autres pays. Très très rare. Écoutez ceci. Une autre chose. Dans le livre des Nombres, le chapitre 9, quand Moïse était envoyé pour conduire les Israélites,
The house of Jacob.
La maison de Jacob.
From Goshen. Goshen.
De Goshen.
In Egypt.
En Égypte.
To the promised land.
Jusqu'au pays promis.
They did not know the way to the promised land.
Ils ne savaient pas le chemin du pays promis.
Wandering.
Errant.
Did not know the way that leads to the promised land.
Ils ne connaissaient pas le chemin qui conduit au pays promis. Et la Bible dit, parce qu'ils n'avaient jamais été sur ce chemin auparavant, alors finalement, le Dieu Tout-Puissant a ouvert les cieux et il a présenté sa gloire. Et la gloire du Seigneur, la nuit était comme une flamme.
In the day, it was a cloud.
Et pendant le jour, c'était une nuée.
And the glory of the Lord began to lead them.
Et la gloire du Seigneur a commencé à les conduire.
But they may know
pour qu'ils puissent savoir
which way leads to Canaan.
Quel chemin conduit à Canaan.
So listen to what they did.
Alors écoutez ce qu'ils ont fait.
They have been grumbling down here.
Ils se sont mis à se plaindre, à geindre. Où est notre Dieu ici? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? Au moins là-bas, nous avions nos dieux que nous pouvions toucher et adorer. Nous pouvions voir nos dieux. Mais maintenant, tu nous conduis dans le désert. Il n'y a pas de Dieu, on ne le voit pas. Et nous souffrons ici. Mais le jour où la nuée est venue, le Seigneur leur a dit, mais quand la nuée s'installe, alors ils doivent dresser leur tente. Si la nuée s'installe pour une journée, ils doivent dresser leur tente pour un jour. Si elle s'installe du matin au soir, ils doivent dresser leur tente pour ce temps. Si elle reste pendant un mois, ils doivent dresser leur tente pendant un mois. Mais quand la nuée quitte, ils doivent suivre. De cette manière, ils savaient quel chemin prendre. Écoutez ceci. Alors, au lieu de regarder en bas, tout le monde dans les tentes était toujours concentré sur le ciel. Est-ce qu'elle s'est levée? Pas encore. Ils étaient concentrés sur le ciel. Et Dieu utilise cette visitation des anneaux de noces qu'il a placés dans le ciel pour m'envoyer ici pour vous dire que regardez le visage, l'apparence, l'apparence du ciel a changé. Regardez au ciel. Il y a maintenant deux anneaux de noces. Et chaque fois qu'il va y avoir un mariage et que les anneaux de noces sont prêts, ça signifie que les préparations pour ce mariage sont finies. Ce qui signifie que toutes choses maintenant sont prêtes. Ça signifie que le temps est passé. Ça signifie que à n'importe quel moment, maintenant, ce mariage peut avoir lieu. Arrêtez de regarder en bas. Arrêtez de vous focaliser sur les choses de la terre. Il dit, concentrez votre cœur pour les choses des cieux. L'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 19, jusqu'à 21, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille et les voleurs peut détruire et voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille et les voleurs ne peuvent pas détruire et voler. C'est pourquoi je suis venu. Pourquoi aujourd'hui vous puissiez vous concentrer sur le ciel. Vous pouvez arrêter ça. Oh, il y a tellement de souffrance. Ou tel et tel dit cela. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Où est-ce que je vais aller? Concentrez-vous sur le royaume de Dieu. La Bible dit, n'aimez pas le monde. 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. Il dit, n'aimez pas le monde. Le monde et toutes choses dans le monde passeront. Mais celui qui aime le Père, celui qui aime la parole vit pour toujours. Si vous vous concentrez sur la parole de Dieu, la parole de Dieu parle du royaume de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs, les faux pasteurs et apôtres, ils ont pris la parole de Dieu pour une vie terrestre. La parole de Dieu, ils l'ont changée pour leur estomac. Maintenant, ils l'utilisent pour avoir de la nourriture pour leur estomac. La parole de Dieu est pour le royaume de Dieu. Pour qu'un jour, vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu est bon. Si vous êtes en ordre avec Dieu, il ne va jamais vous humilier. Même sur la terre. Le royaume, premièrement. Le royaume de Dieu, premièrement. Juste un fruit à manger. Une maison où rester. Dieu ne peut pas pourvoir. Il peut pourvoir. Mais s'il vous plaît, premièrement, le royaume de Dieu. Concentrons nos cœurs sur le ciel. Je sais que je vous ai béni. Si le Seigneur tarde, ça va venir. Ça doit arriver. Cette langue parle et les océans obéissent. Vous savez combien les océans sont lourds, mais ils se déplacent. Même le Malawi. Les tremblements de terre au Malawi. Le 7 décembre et le 9. La même langue vous a blessé. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour que Dieu puisse être glorifié. Pourquoi? Pour que vous mettiez votre attention sur le royaume de Dieu. Assurez-vous qu'aucune bénédiction ne vous éloigne de Dieu. J'ai dit aux gens, les pasteurs, que cette parole, la parole de Dieu, elle est trop sainte. Vous ne pouvez pas la toucher. Vous ne pouvez pas toucher la parole de Dieu avec l'amour de l'argent.
You cannot defile it with the love of sexual sin.
Vous ne pouvez pas la souiller avec l'amour du péché sexuel.
Or witchcraft.
Ou bien la sorcellerie.
Why?
Pourquoi?
Because.
Parce que
everything else of the world.
Toute autre chose dans le monde.
The houses you build.
Les maisons que vous construisez.
Where you live.
Là où vous vivez.
Your job.
Vos occupations.
Your cars.
Vos voitures.
Your everything TV, property, soil, RV.
Tout ce que vous avez, les télévisions, nommez-les, les propriétés et les terrains.
They will remain here.
Vont rester ici.
They will remain here.
Ils vont rester ici.
But this world.
Mais cette parole. Amène les gens au royaume de Dieu.
You cannot define this word.
Vous ne pouvez pas la toucher.
I wish pastors can understand this.
Je désire que les pasteurs puissent comprendre cela.
This one.
Celle-ci.
Is the only thing we have.
C'est la seule chose que nous avons.
Today,
aujourd'hui.
You hear after 34 years they die.
Vous entendez, après 34 ans, ils meurent.
Some don't even reach 34.
Certains n'atteignent même pas 34.
Let's say you live for 100 years.
Disons que vous viviez 100 ans.
Eternity.
L'éternité.
Even after 1 trillion years are over.
Même après qu'un trillion d'années sont passées.
Trillion.
L'éternité n'a pas encore commencé.
So don't waste this short time you have here.
Alors ne gaspillez pas le peu de temps que vous avez ici.
Listen to this.
Écoutez ceci.
Zacharie.
Le chapitre 13.
7-9, you know it.
7 à 9, vous les connaissez.
Purification of the church.
La purification de l'église. Il dit.
The one child.
Le tiers.
That will remain.
Qui va rester.
He will pass through fire.
Il va le passer à travers le feu.
Refine them like silver.
Le purifier comme l'argent.
And test them like gold.
Et l'éprouver comme on éprouve l'or.
What does that mean?
Qu'est-ce que ça signifie?
In the context of this vision.
Dans le contexte de cette vision.
Look at this.
Regardez ceci.
When Jesus was born,
quand Jésus est né,
the three wise men, the magi,
les trois hommes sages, les mages,
they came to Jesus.
Ils sont venus à Jésus.
When they found him,
quand ils l'ont trouvé,
they placed gold.
Ils ont placé de l'or.
Et
de la myrrhe amère et de l'encens. J'aimerais porter mon attention sur l'or. Quand le Seigneur a créé la terre, il a créé le jardin d'Éden et il y avait une rivière qui arrosait le jardin. Elle avait quatre bras. Quatre bras.
One of them is known as Pishon.
L'une d'entre elles est connue comme étant Pishon.
Pishon flowed in the land.
Pishon coulait dans le pays.
And the Lord says this.
Et le Seigneur dit ceci.
It flowed in the land of gold.
Le pays d'Avila, où se trouve l'or,
and God has created.
Que Dieu a créé.
And he said,
et il dit.
And the gold in that land.
Et l'or de ce pays
was good gold.
Était de l'or bon.
When God says good, what does he mean?
Quand Dieu dit bon, qu'est-ce qu'il pense?
That means holy.
Ça signifie saint.
Holy gold.
De l'or saint. Zacharie 13.
I will take the gold.
Je vais prendre l'or.
I will take the remnant.
Je vais prendre le restant.
And purify.
Et le purifier. Comme de l'or. Il parle de l'église restante. Quand vous prenez de l'or et que vous le passez à travers le feu, vous obtenez ça. Vous venez chez Monsieur Langart ici. Vous dites, Langart, j'ai trouvé de l'or. Langart dira, Montre-le-moi premièrement.
And then we show him.
Ensuite, vous lui montrez.
Langarte
dira, mais est-ce que c'est de l'or ou une pierre? Va et purifie-le premièrement. Quand vous le purifiez, Langarte désire savoir quelle est la vraie valeur de cet or. Vous obtenez toujours cela. Plus petit. C'est la vraie valeur de l'or. Juste maintenant, l'Église de Christ tout autour du monde est contaminée avec beaucoup de péchés. Et Dieu dit, les anneaux de noces sont en or. Les anneaux de noces sont en or. Ils sont purifiés. Mais où est l'Église qui est purifiée? Quand je regarde l'Église, il y a des péchés sexuels. En fait, le plus grand péché dans l'Église, c'est le péché sexuel. Qu'est-ce que vous dites à propos de jeûner? Laissez-moi vous dire, ça tue toute la chair. Ça vous purifie. Jusqu'à ce que quand vous marchez dans la rue, toute chose que vous voyez, vous n'êtes pas intéressé. Il y a des gens qui mangent ici, alors vous dites, oh non. Vous n'êtes plus intéressé au monde. L'Église porte des mini-jupes et des pantalons serrés. Pasteur, regarde mon anatomie. Regardez mon corps. Pasteur, convoitez-moi. Ils font cela parce qu'ils n'ont pas tué la chair. Si vous voulez jeûner, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, je vois l'Église. Mais l'Église est comme une miche de pain, pleine de levain. Je désire passer l'Église à travers le feu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, il l'a conduit dans le désert pour prier et jeûner. Le Saint-Esprit purifiera toujours l'Église. Et une des manières, c'est en jeûnant. Mais la meilleure part du jeûne que j'aime, le type de jeûne que nous faisons est sans eau, sans nourriture, sans télévision, sans rien. Quand nous commençons à entrer dans le quatrième jour, ça c'est la meilleure part du jeûne maintenant. Quand maintenant, nous ne pouvons pas nous réveiller du lit. Tout est douloureux. Les joints, les jambes. J'aime ça. Parce que j'entends maintenant la chair se plaindre. Maintenant je sais que le Seigneur coupe la chair. Coupe la chair. Coupe la chair. Le jour numéro 5, maintenant vous êtes prêts à continuer. Précieux peuple, on doit permettre au Saint-Esprit de purifier l'Église.